Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici les titres. L'Autriche annonce une résistance féroce contre l'expansion nucléaire tchèque. En République tchèque, il y a une baisse de l'approvisionnement en pétrole russe. Et puis cinéma, globe de cristal à Karlovy Vary pour le film danois Terriblement Heureux. Le ministre autrichien de l'Environnement, Josef Pröll, a annoncé que son pays allait opposer une résistance féroce contre les projets du groupe énergétique tchèque, ČEZ, projet de construction de deux nouveaux réacteurs nucléaires. Monsieur Pröll a prédit une alliance contre cette mauvaise décision dans le pays voisin de l'Autriche qui a, elle, opté pour le refus du nucléaire. C'était lors d'un référendum en 1978. Le ministre a réagi dans un communiqué à l'annonce par la compagnie d'électricité ČEZ du lancement du processus légale de son expansion nucléaire civile. Le groupe a en effet demandé vendredi au ministère de l'Environnement une étude d'impact écologique de la construction de deux nouveaux réacteurs dans la centrale contestée de Temelín. La principale société pétrolière tchèque a indiqué samedi puiser dans les réserves publiques tout en utilisant un autre pipeline après la réduction de l'approvisionnement de la République tchèque en pétrole russe. Pour l'instant, nous contrôlons la situation, nous puisons dans les réserves publiques pour combler la baisse de l'approvisionnement en pétrole russe et dans le même temps, nous collaborons pour augmenter la quantité de pétrole que nous acheminons depuis la mer Méditerranée. C'est ce qu'a indiqué samedi le membre du conseil d'administration de la société Unipetrol, Ivan Otis, dans un communiqué. La production n'est pas affectée pour le moment, selon Otis. La société Unipetrol indique par ailleurs que selon les informations dont elle dispose, la baisse de l'approvisionnement serait due à des problèmes d'ordre technique et organisationnel en Russie. Fin de citation. Selon le vice-premier ministre Martin Bursik, chef du parti des Verts, qui a pris connaissance des conclusions de l'audit concernant les finances de Jiří Čunek, il n'y a pas de raison pour que le chef de la diplomatie Karel Schwarzenberg démissionne. C'est ce qu'il a indiqué à la télévision publique en citant quelques passages de l'audit réalisé par la société américaine Kroll, des conclusions de cet audit. Et on le rappelle, Karel Schwarzenberg, le chef de la diplomatie, avait menacé de démissionner si les conclusions de cet audit qu'il a payé lui-même n'étaient pas satisfaisantes. Le Danois Henrik Ruben Gens a reçu samedi soir le grand prix du Festival international du film de Karlovy Vary avec son long métrage « Terriblement heureux ». Le prix spécial du jury a récompensé le photographe de l'Indonésienne Nan Triveni Ashnas, le prix du meilleur réalisateur, le russe Alexei Uchitel, pour son film « Captif ». Et puis ce sont deux Tchèques, l'actrice Marta Isova et son compatriote Jiří Madel, qui ont remporté les prix d'interprétation pour leur rôle dans « Chouette nocturne » en tchèque « Dieti noci », un film réalisé par Mikhaela Pavlatova. Le russe Nikita Mikhalkov a pour sa part remporté le prix du public pour son film « 12 », un remake des 12 hommes en colère de Sidney Lumet, adapté à la Russie contemporaine. Il fait un mauvais temps en République tchèque, mais ça devrait s'améliorer en ce début de semaine. C'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin d'information. Dans un instant, culture avec Anna Kubishta à Karlovy Vary. Ah !
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour, Robert De Niro, Danny Glover et Christopher Lee cette année, Sharon Stone ou Robert Redford lors d'éditions précédentes, c'est clair, le festival du film de Karlovy Vary en République tchèque a su se faire un nom qui attire les stars. Alors que cette année, il en était à sa 43e édition, je vous propose ce reportage sur les recettes d'un festival qui s'est fait une place au soleil. Dans la ville de Karlovy Vary, qu'on appelait autrefois Karlsbad, il y a d'abord l'eau, les sources thermales, qui attirent chaque année des milliers de curistes. Mais tous les ans, début juillet, il y a aussi le Festival international du film de Karlovy Vary. Depuis la chute du communisme, il n'a cessé de croître et d'attirer un public jeune et enthousiaste, et des professionnels du cinéma réputés, qui considèrent ce festival comme un rendez-vous annuel désormais incontournable. C'est ce qu'estime la réalisatrice française Marion Lenne, invitée du festival, pour son film Un cœur simple, adapté de Flaubert.
Là, ce que j'adore dans Karlovy Vary, c'est que c'est très réputé à Paris, et tout le monde adore ce festival, et on m'avait expliqué que les gens venaient de toute la République tchèque, avec les jeunes avec les sacs à dos et toutes les salles étaient remplies et c'est ce que je trouve fabuleux quoi. Donc j'avais très très envie de venir. Je suis très heureuse d'être ici.
À l'origine de ce succès, un homme, Jiří Bartoška, mais aussi une femme, Eva Zaoralová, qui est véritablement l'âme du festival, comme le souligne le critique de cinéma tchèque David Čenek.
Après le changement politique en 89, il y avait plusieurs problèmes, que ce soit les problèmes politiques ou financiers, et il fallait quelqu'un qui donne une nouvelle image à ce festival. Et c'était Madame Zaoralová qui a beaucoup aidé ce festival afin qu'il puisse évoluer, qu'il puisse trouver en fait sa place parmi les autres festivals. Il y avait un essai en fait de faire un festival à peu près de la même catégorie à Prague, mais c'était un échec. Et le festival aujourd'hui est devenu, je pense, un des événements les plus importants au niveau du cinéma dans notre pays, parce que c'est à Karlovy Vary qu'on peut voir vraiment les nouveaux films qui ont été déjà présentés avant dans plusieurs festivals du monde. C'est un festival qui est aussi un point de rencontre pour les distributeurs, que ce soit les distributeurs tchèques ou étrangers. C'est un festival où sont présentés presque tous les nouveaux films tchèques, que ce soit les fictions ou les documentaires. Et on se rencontre en fait tous, parce que en République tchèque, en fait, le pays est petit, on se connaît tous, que ce soit les journalistes, les gens qui travaillent à la télévision pour les autres festivals. Le festival de Karlovy Vary donne la possibilité aux autres festivals en République tchèque de se présenter ici.
Eva Zaoralová et le festival, c'est une histoire d'amour depuis les années 70, où elle s'y rend alors en tant que journaliste spécialisée dans le cinéma français et italien. Et aujourd'hui, à 76 ans, la magie du 7e art fonctionne toujours pour cette femme énergique.
Ce que j'aime beaucoup, c'est la sélection des films. Et je dois dire que ça ne m'ennuie pas. On me pose très souvent la question, comment je peux voir tant de films et si cela n'est pas un peu monotone. C'est vrai que c'est monotone, mais de toute façon, c'est toujours très fascinant de découvrir des qualités dans certains ouvrages.
Le festival de Karlovy Vary est un festival dit de catégorie A, au même titre que Cannes, Locarno ou Saint-Sébastien. Mais pour se démarquer, il s'est donné pour objectif d'offrir un panorama du cinéma d'Europe centrale et orientale avec une section spécifique à l'est de l'ouest, comme l'explique le critique de cinéma britannique Philippe Bergson.
Ça, c'est très important pour les professionnels, pour les critiques, pour les metteurs en scène même, dans une semaine, de voir tout est là, de ces pays, dans un seul endroit, sous-titré normalement dans une autre langue, surtout anglais, avec la présence de metteurs en scène, et aussi les documentaires, non seulement les longs métrages de fiction, mais aussi les documentaires. Alors là, c'est vraiment une vitrine dans les deux sens. C'est pour promouvoir ces films-là, mais aussi c'est pour nous, et peut-être les gens de ces pays même, de regarder un peu ce qui se passe à côté de la frontière.
Est-ce que vous pensez que le cinéma tchèque, par exemple, est bien représenté à ce festival?
Oui, bien sûr. Il y a plusieurs films dans plusieurs sections. On a déjà vu un seul en compétition de quelqu'une qui n'a pas grande expérience dans la fiction, je crois, mais qui n'est pas trop jeune elle-même, mais c'est un peu pratiquement un débutant comme fiction, mais on va voir aussi un autre film d'un metteur en scène qui a vraiment déjà remporté le Grand Prix une fois ici au Karlovy Vary. Et dans les sections parallèles et dans les petits, ainsi dire, marchés, il y a, je pense, une richesse des films commerciaux ou qui sont déjà sortis à Prague ou dans le pays, destinés à des étrangers, toujours avec des sous-titres anglais ou peut-être même français. Et je pense que c'est intéressant pour voir des films comme ça, avec normalement quelques personnes du pays même qui sont dans la salle. Il y aura les personnes tchèques qui n'ont pas vu un film qui a fait beaucoup de succès, mais qui vont voir ici. Et c'était intéressant pour les étrangers de voir comment réagissent le propre public du film, pour les films tchèques, je pense.
Et pourtant, quand on voit, disons, les films tchèques projetés à l'étranger, il n'y en a quand même pas énormément. Enfin, finalement, ça reste assez confiné. Chesti, Something Like Happiness, avait été sorti en salle en France, mais bon, dans des petites salles et ça, mais ça reste très confiné.
Il y a là un petit paradoxe sur la situation actuelle du cinéma tchèque. C'est un des seuls pays en Europe où le public se rend voir des films de leur propre pays. Le quota des films tchèques au box-office, c'est assez élevé par comparaison avec même le film français en France. Grâce à un, deux films, comme le film de Menzel, comme le film de Sferak, qui a connu un million d'entrées. Alors, un million d'entrées dans un pays de 10 millions, ça c'est déjà quelque chose. En même temps, c'est évident que la plupart de ces films qui font beaucoup de succès au box-office, à Prague et dans le pays entier, sont destinés à une audience locale. Même des jeunes, même des comédies un peu érotiques, un peu banales. Par contre, les films des années de gloire de la Tchécoslovaquie dans les années 60, qui étaient souvent proscrits dans le pays, étaient connus dans le monde entier. Et là, c'est le paradoxe. On reste toujours sur les grands noms et les grands films. Récemment, on a célébré le non-festival de Cannes 68, par exemple. Le festival qui a été suspendu en mi-terme. Et là, on avait trois films dans la compétition proposée pour Cannes 68 de Tchécoslovaquie. Tous les trois films sont aujourd'hui encore des chefs-d'œuvre. Alors, on cherche encore les chefs-d'œuvre dans le cinéma tchèque, mais on a pour l'instant au moins un public qui se rend voir des films, et peut-être éventuellement on aura un cinéaste ou un écrivain jeune, je dis, ou pas si jeune que ça, qui peut capter encore cette gloire du cinéma et qui peut toucher tout le monde. Je cite le film de Jiří Menzel, qui n'est pas un film de cette année, c'était de l'année dernière. Mais là, il y a absolument un metteur en scène qui a suivi sa ligne, qui lui est resté fidèle, qui présente tous les caprices, les excentricités, même les perversités des Tchèques, même de nos jours, mais qui en même temps amuse et touche les publics de tout le monde, parce qu'on est tous faibles, nous sommes tous avec des caprices et des désirs pour la bière ou des femmes ou comme ça. Et là, il faut que cette génération actuelle de cinéastes tchèques s'apprenne comment présenter le propre pays, mais d'une façon que d'autres personnes s'intéressent.
Quels sont vos coups de cœur? Quels sont les films que vous avez vus à Karlovy Vary qui vous ont plu particulièrement?
Jusqu'à présent, j'aime bien le film de Bathory, de Jakub Bisko, qui est une grande fresque, qui est le plus cher film jamais tourné en Europe centrale, etc., qui a eu beaucoup de problèmes financiers à voir le jour. Mais je vois qu'il y a beaucoup de beauté dans le film, et que Jakub Bisko, qui n'est pas tchèque, mais est slovaque, il est très proche, quand même, a réaliser quelque chose qui, en même temps, présente une histoire d'une Europe médiévale ou juste après médiévale, mais qui a aussi des références très pertinentes pour nos jours.
Chaque année, le festival présente également des films de Cannes. Cette année, le film d'animation « Valse avec Bachir » faisait partie des projections très attendues à Karlovy Vary. Un film sur la mémoire et l'oubli, témoignage intense et personnel de son réalisateur, Ari Folman, de l'époque où il était soldat dans l'armée israélienne au moment des massacres de Sabra et Shatila. Ari Folman était déjà venu dans le passé à Karlovy Vary pour son adaptation en film d'une pièce de l'écrivain et dramaturge tchèque Pavel Kohout, « Sainte Claire ».
Quand j'ai découvert cet ouvrage, c'était une période où j'étais étonnamment célibataire. Et à chaque fois que j'avais rendez-vous avec des filles, je leur achetais ce livre. J'ai remarqué qu'il avait une grande influence sur les femmes. Je me suis dit qu'il pourrait avoir une plus grande influence en film. Donc, j'ai décidé de le tourner. Plus tard, j'ai fait la connaissance de Pavel Korut en 1991 à Jérusalem. Ce film a été présenté à Carlo Ivari et a remporté le prix du jury. C'était un grand événement pour moi, un des meilleurs pour moi. Pavel Korut est venu pour la projection, Václav Havel aussi, qu'il connaissait depuis l'école. C'était extraordinaire.
He came and Václav Havel knew him from school, so he came for the screen. It was so great.
Et cette année, le réalisateur israélien Ari Folman était également à Carlo Vivari en tant que membre du jury.
J'ai toujours refusé de participer à des jurys, mais je voulais absolument revenir à Carlo Vivari, où j'étais venu il y a 12 ans avec mon premier film. Et puis j'ai vu qui était dans le jury, Ivan Passer, Paul Mazursky. Ça ne se refuse pas. J'ai beaucoup voyagé avec mes films et je n'ai jamais vu un public aussi jeune. La moyenne d'âge doit être de 24 ans. C'est incroyable. Vous n'aurez jamais une atmosphère comme ça à Cannes.
Côté public, donc, l'engouement est partagé.
Nous sommes là depuis le tout début. On a vu pas mal de films qu'on a tous aimés. Ça fait depuis 5 ans que je viens au festival. J'aime l'atmosphère et le fait qu'il y ait tant de jeunes et d'étudiants.
Ça me plaît parce que c'est ouvert aux gens normaux. Ici, on peut manger et se loger pour pas cher. Et puis, on peut entrer dans les salles, même si on n'a pas eu le temps de réserver un billet. Là, on est assis dans l'entrée et on attend. S'il reste des places, il laisse entrer les gens qui ont des passes, mais pas de billets. Une chose est sûre, le festival de Carlo Ivari est sans aucun doute le moment cinéma le plus important de l'année en République tchèque. D'ailleurs, rien qu'à la mi-festival, le nombre de passes et billets vendus était supérieur à la totalité des ventes de l'année dernière. Cette émission a été enregistrée avant la cérémonie de clôture du festival, c'est pourquoi les films vainqueurs n'y figurent pas. Mais Radio Prague vous tiendra informé dans ses flash infos, bien entendu. Vous retrouverez les invités français du festival dans les deux prochaines rubriques de Culture sans frontières. Merci de votre fidélité, à bientôt, ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Alain Slivinsky.
Bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de notre rubrique destinée aux touristes qui viennent séjourner en République tchèque. Dans notre guide hebdomadaire, nous vous présenterons une promenade à Prague pas comme les autres, une promenade des plus originales. C'est ce que nous offre le plus grand cimetière de Prague, Olchany. Le cimetière, ou plutôt les cimetières d'Olchany, ne se trouve pas très loin du centre, dans le 3e arrondissement de Prague. On peut y arriver en prenant le tramway, ou même à pied, en faisant une petite marche d'un quart d'heure, ou un peu plus pour les touristes les plus lents. Arrivé au cimetière, on peut se promener dans les allées en admirant certains bâtiments, certaines tombes, mais ce que nous offrent les cimetières d'Olchany est rare, ou même unique en Tchéquie et en Europe. Un chemin de la connaissance. C'est le prêtre Miloš Sabo, qui officiait jusqu'à ce printemps à l'église Saint-Procope, dans le quartier de Žižkov, qui a eu l'idée de créer un chemin de la connaissance au cimetière d'Olchany. Pourquoi ? Parce qu'à son grand regret, les visiteurs ne savaient pas souvent quel grand personnage de l'histoire repose en ces lieux. D'après le prêtre, ce chemin de la connaissance est vraiment unique en Europe, car dans les grands cimetières européens, il existe certes des plans à l'entrée, avec l'emplacement des tombes, leurs numéros, mais par contre, on ne trouve pas des informations détaillées sur les défunts. En 2007, le projet du prêtre a été réalisé et 24 panneaux d'information en bois ont été installés dans les principales allées des cimetières. L'intérêt des Pragois et des visiteurs, tchèques ou étrangers, s'est très vite manifesté. Il faut dire que se retrouver dans les vastes cimetières est difficile. En effet, ils abritent dans les 25 000 cryptes 200 chapelles funéraires, 65 000 tombes, 20 000 tombes où reposent des urnes, 6 columbariums, 2 prés pour les cendres. La superficie totale des cimetières est de plus de 50 hectares. Visiteurs qui se rendent au cimetière d'Olchany pour s'y promener peuvent aussi visiter trois chapelles, celle de Saint-Roch, Saint-Sébastien et Sainte-Rosalie. Les deux saints et la sainte étaient les patrons qui devaient protéger la ville contre la peste. En effet, les cimetières d'Olchany ont été aménagés en 1680. En cette année, une grande épidémie de peste s'est abattue sur Prague et les petits cimetières ne suffisaient plus. Pour cela, la ville a décidé d'aménager de nouveaux grands cimetières. Et depuis ce temps-là, ils sont devenus le lieu du dernier repos de plus de 2 millions de personnes. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour y honorer le souvenir de leurs proches, mais aussi pour se promener tout simplement, ou pour s'amuser en donnant à manger aux écureuils, qui sont particulièrement nombreux dans les cimetières. Il y a aussi beaucoup de geais, que l'on ne trouve pas souvent dans d'autres endroits à Prague. Des lapins y possèdent leur terrier, et des faisans leur nid. On peut même y aller aux champignons. De nos jours, la localité d'Olchany est une des plus propres de Prague, où l'air est le moins pollué. Bien que cela puisse sembler assez étrange, c'est un endroit où les mamans viennent souvent avec leurs poussettes et leurs enfants pour passer un bon après-midi dans le calme et la verdure. Il n'est pas rare non plus pendant l'année scolaire de rencontrer des classes entières dans les allées des cimetières. Qu'est-ce que le visiteur peut vraiment apprendre sur le chemin de la connaissance créé par le prêtre Miloš Szabo? En dehors des noms des défunts et des dates de naissance et de décès, les panneaux d'information offrent une courte biographie, une photo de la tombe, dans le cas où elle existait, ou au moins de l'endroit où elle se trouvait. En effet, le chemin de la connaissance ne présente pas seulement les tombes qui existent encore, mais aussi celles qui ont disparu au cours des siècles. Nous avons parlé de personnages de l'histoire qui reposent au cimetière d'Olchany. Parmi eux, nous pouvons citer l'étudiant Jan Palach, qui s'est donné la mort par le feu en signe de protestation contre l'occupation de la Tchécoslovaquie par les armées du pacte de Varsovie après l'écrasement du printemps de Prague en 1968. Les tombes de grands poètes tchèques s'y trouvent aussi, comme celle de Karel Jaromír Ben, l'auteur du célèbre poème « Le bouquet ». De grands acteurs dorment ici leur dernier sommeil, comme le célèbre duo Jan Werich et Jiří Voskovec, Oldřich Nový, auquel aucune femme ne pouvait résister, du moins à l'écran, Vladimir Menchik, l'un des meilleurs comédiens tchèques de la fin du XXe siècle. Le compositeur Jaroslav Ježek, dont les airs font toujours danser les foules, ou le peintre Josef Lada, toujours admiré pour ses dessins, reposent aussi à Olchany. Les cimetières abritent aussi des monuments à la mémoire des victimes des deux guerres mondiales, des soldats de l'armée soviétique qui sont tombés dans les combats pour la libération de Prague et de la Tchécoslovaquie. La liste des noms des personnes qui se sont rendues célèbres d'une manière ou d'une autre est longue. Le livre, intitulé « La clé des cimetières pragois », compte 24 pages entières de noms de ces illustres personnages. Si nous vous avons donné l'envie de vous promener au cimetière de Lchany, sachez encore qu'ils sont ouverts au public pendant toute l'année, de 8h à 19h, du mois de mai au mois de septembre. En hiver, seulement de 9h à 16h. Les cimetières de Lchany sont divisés en deux parties par la rue Jana Jalivskeo et ils sont au nombre de 12. Les cimetières de Lchany sont aussi apparus au cinéma, comme par exemple dans le film américain intitulé Black Sheep, tourné ici en 2001 avec Anthony Hopkins. Malheureusement, ils attirent aussi les voleurs et les profanateurs de tombeaux. Le prêtre Miloš Sabo est persuadé que grâce au grand intérêt suscité par le chemin de la connaissance, les visiteurs seront plus nombreux et qu'il y aura ainsi moins d'actes de vandalisme. C'est la fin du chapitre de notre guide touristique consacré au cimetière de Lchany que nous vous invitons à visiter vraiment lors d'un éventuel séjour à Prague. C'est ainsi que prend fin aussi l'émission en langue française de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.